Bienvenue dans Start to Scale, le podcast du Media Tribes qui vous donne accès aux conseils des meilleures startups pour aller plus vite. Je suis Eric Seclet et mon but, c'est de vous partager des méthodes actionnables, des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques éprouvées par les meilleurs entrepreneurs et employés de scale-up de la tech française. Mais juste avant de vous laisser avec votre mentor du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Allez, bonne écoute! Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Dorian, le CEO de Zedic et ancien CEO et cofondateur d'Ivancy. Bienvenue dans le podcast à nouveau, Dorian.
Hello Eric, bah, trop content d'être avec toi une fois de plus.
Bah ouais, on a déjà parlé de cold call, de motivation des équipes sales, sauf qu'aujourd'hui, il faut le recruter, tout ce beau monde quand on scale. Toi, tu as connu ça chez Ivancy avant le rachat. Donc première question par rapport à ce que toi t'as vécu, parce que t'as monté tes équipes sales à plus de 40. C'est à partir de quand t'as commencé à avoir une personne pour recruter ce beau monde?
Ouais, c'est une super bonne question. La première RH qu'on a recrutée, elle est arrivée quand on était 50 dans la boîte. Donc on était une cinquantaine de personnes et on l'a recrutée un petit peu tard. Donc, c'était une RH full-time et avant ça, on avait une DRH part-time qu'on a commencé à 25 personnes. À 25 personnes, c'est là où tu commences à avoir des difficultés à créer ta culture d'entreprise, tes valeurs, à garder les personnes motivées, à mettre ton middle management. Et donc, on a décidé de se faire accompagner. On n'avait pas encore le budget à l'époque pour avoir quelqu'un en full-time dessus. En tout cas, on avait préféré privilégier d'autres recrutements. Et on s'est dit, OK, ben, quelqu'un en part-time qui nous aide 2 à 3 jours par mois, c'est super. On a pris une personne hyper expérimentée qui nous a accompagnés, qui nous a aidé à mettre les règlements internes, qui nous a aidé à faire les contrats de travail, les optimiser, à créer en fait la première brique RH. Et quand on est arrivé à 50, là on s'est dit bon, 2-3 jours par semaine ça suffit plus, parce qu'il y a pas mal d'onboarding, d'offboarding, de choses à gérer, des logiciels à mettre en place, comment on se projette dans les payes aussi, dans les grilles des salaires. Et donc là on a décidé d'internaliser le métier, mais à refaire j'aurais fait beaucoup plus tôt. Et avant ça encore, on avait une office manager qui nous avait rejoint quand on était une quinzaine, vingtaine. Et donc là, les personnes, parce qu'on a changé en cours de route, les office managers en fait n'étaient pas experts en RH. Par contre, c'était un soutien de malade. Et heureusement qu'elles étaient là pour nous aider, parce que en fait, elles faisaient le métier quasiment des RH sans être expert RH. Et ça nous permettait de faciliter en fait pas mal de choses. Sur la partie admin. Donc voilà, ce que je recommande, c'est d'avoir une RH à 20-25, qu'on commence à bien consolider son équipe, à avoir du middle management. Et si on sait en fait qu'on a le budget pour réussir à scale l'entreprise, parce qu'on a fait une levée de fonds, parce qu'on a une forte croissance commerciale, bah là aussi, on peut se permettre de recruter déjà à ce moment-là une RH.
Et cette RH, elle va vite devoir... je dirais, elle-même recrutée dans son équipe. Parce que, en tout cas, ça a été le cas, parce que tu avais levé des fonds, donc tu avais une phase de scale assez importante qui t'attendait. C'est quoi le type de profil dont on a besoin dans ces phases-là? Parce que tu as beaucoup d'appellations et on fait souvent aussi le distinguo entre la partie people et la partie chasse. Donc, comment ça se structure tout ça?
Nous, on avait pris une généraliste. T'as parfois certaines personnes qui elles vont chercher plutôt des talents d'acquisition. Nous, on a préféré quelqu'un qui gère la globalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand tu prends une RH ou un RH, hein, quand je parle à chaque fois, je dis une parce que c'est une personne, tu vas chercher en fait une personne capable de tout faire, mais c'est pas possible. La personne a toujours une expertise, soit une expertise métier, soit une métier donc admin, soit une expertise en fait recrutement. Soit une expertise culture d'entreprise, happiness manager, c'est compliqué de tout avoir. Donc, il faut faire des choix. Nous, on avait privilégié plutôt le côté généraliste. Et comment on fonctionnait? C'est il y avait différents meetings. Le premier des meetings était fait donc par le RH. Donc, nous, en l'occurrence, c'était Céline. C'était un meeting de 20 à 25 minutes d'appel téléphonique pour filtrer. Une fois que le meeting était fait, c'était le manager en question qui faisait un meeting avec la personne d'une heure. Et pendant ce meeting-là, la personne, le manager allait valider la culture, les valeurs, mais aussi l'aspect opérationnel. En fonction des métiers, il y avait un test qui était mis en place. Puis ensuite, il y avait rencontre avec les cofondateurs, donc avec Sylvain et moi-même. et ensuite il y a un team fit. Et donc voilà, ça c'est comme ça que nous on s'organisait en tout cas pour bien recruter. Et pour revenir à la question initiale, donc nous on était plutôt sur un besoin généraliste. Et ce qui était drôle de ce qu'on mettait en place, c'est qu'en fait la RH qu'on avait, Céline, recrutait des CDI, et pour recruter nos commerciaux en alternance et en stage, on avait une stagiaire RH qui faisait le recrutement de nos autres stagiaires. Et ça nous a permis vraiment de scale la boîte, et ça a été une stratégie mais incroyable pour nous, parce que on avait, sur la centaine de salariés qu'on avait chez Ivancy, on avait 10, 15 à peu près stagiaires à ce moment-là. Et donc, il y avait un roulement tous les 6 mois. Et donc, sur ce roulement-là, ben, on avait besoin de quelqu'un pour les gérer. Et donc, on avait pris une stagiaire.
Donc, tu as dégagé de la bonne passante pour, on va dire, ta RH full-time, et pour qu'elle se focus sur, on va dire, les CDI. Et tu avais une personne, une stagiaire, pour gérer la partie stagiaire et les roulements en parallèle.
Exactement. Et c'était génial.
Et vous êtes resté, on va dire, avec des profils généralistes assez longtemps, chez Ivancy.
Ben, on n'a jamais eu de talent acquisition.
Pourquoi?
Parce que je trouvais qu'on n'en avait pas forcément besoin. Alors parfois c'était le cas sur la partie tech, mais là on passait plutôt par des agences externes pour pas le faire en interne. Donc on avait quelques cabinets avec lesquels on travaillait. Donc moi je recommande d'en avoir 2 ou 3 et être très proche d'eux pour avoir une bonne relation, que c'est beaucoup plus facile parce qu'ils connaissent les besoins et ils nous voient évoluer. Mais c'est vrai que j'avais pas décidé d'internaliser. Après, si la boîte avait continué à grossir, si on avait fait une série B et si on n'avait pas vendu au fonds d'investissement américain, ben là j'aurais internalisé le métier aussi en interne, parce qu'on aurait dû recruter beaucoup plus de personnes. Mais je pars du principe que une RH, en fait, a la capacité de te recruter 20 à 25 personnes dans l'année, et que, en tout cas, nous, ça suffisait largement avec notre aide en tant que cofondateur.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, 2 à 3 cabinets externes, est-ce qu'éventuellement, tu as des noms, tu as des refs à partager pour les autres founders qui seraient susceptibles d'écouter le podcast?
Ouais, avec plaisir. Alors nous, là, chez Zelic, on travaille avec Urban Linker et Besson. Mm-hmm. Donc, c'est ceux avec lesquels on travaille le plus pour faire notre recrutement technique et data.
Ok, super, merci. Et sur la partie... comment t'as organisé le département RH? Donc, c'était des people plutôt généralistes. Et après, les couches de management intermédiaires, comment est-ce que t'as organisé ça en fonction de la maturité du projet?
Tu parles en général d'un point de vue manager?
Ouais, en gros, est-ce que à un moment donné, tu as ajouté, à partir de quand, par exemple, tu as recruté un DRH, en tout cas une personne qui va chapeauter les autres recruteurs? C'est quoi un peu les seuils?
Ouais. Alors, ben, nous, en fait, on n'avait pas de DRH, on avait juste une RH, quand on était 50, qui nous a accompagnés jusqu'à la centaine de collaborateurs qu'on avait. La question, elle aurait pu se poser si on avait dépassé les 150-200. Mmh. Je pense que là, on aurait eu différentes personnes en interne. Mais en fait, notre RH à nous, elle avait quand même du management, parce qu'on avait une entité en Espagne et on avait une RH en Espagne. Et donc, l'Allemagne se développait aussi avec 10 personnes. Et donc, on programmait déjà, en fait, d'avoir une DRH. Donc, soit c'était la personne qui était déjà chez nous, soit c'était une personne autre. Mmh. Et donc, cette personne-là aurait managé 3 RH. Donc, une par pays. Mmh. Et donc ça, on l'avait planifié, mais je trouvais qu'on était encore un peu trop petit pour le faire à ce moment-là.
Ok, ouais. Mais malgré les levées de fonds, vous étiez resté hyper lean dans votre approche. Autre point dont je voulais parler, en off, tu me disais que c'était important de construire le savoir de TRH. Est-ce que éventuellement tu peux développer dessus?
Ouais, en fait, ben ta personne, quand elle arrive en tant qu'RH dans ta boîte, il faut qu'elle ait une vision 360, il faut qu'elle comprenne tout. Donc en fait, il faut qu'elle comprenne la culture, les valeurs, il faut qu'elle comprenne quel type de personne elle doit recruter, il faut qu'elle puisse bien pitcher, donc elle comprenne ta solution pour donner envie au candidat de te rejoindre, parce que ça va dans les deux sens. Parfois, tu peux rater un candidat parce que t'as pas été assez bon en tant que recruteur, et tu t'es dit, c'est dommage, en fait, j'ai pas réussi à motiver cette personne-là. Donc, il faut que ta RH puisse savoir le faire. Il faut que la RH, en fait, puisse comprendre aussi le produit. Parce que s'il y a des questions un peu techniques sur qu'est-ce qu'on fait, ben, il faut réussir à comprendre ça. Et donc, il faut développer le savoir de ta personne quand on arrive dans la boîte. Et c'est pareil, tu as un onboarding à mettre en place, tu as des one-to-one hebdo à mettre en place, il faut répondre aux questions. Et il faut que infuser en fait les valeurs et la culture des cofondateurs dans la personne que tu recrutes qui va gérer la partie RH. Pourquoi ? Parce que quand ta boîte elle grossit, quand tu dépasses les 100 salariés, généralement, les cofondateurs ne font plus le recrutement. Mmh. Ah, ça dépend des boîtes.
Hein. Et puis ça dépend des profils. Après, si tu es sur un C-level, un head-off, derrière, il y aura toujours un fit, on va dire, un entretien avec le CEO.
Ouais. Oui, tu peux avoir, voilà, exactement. Ça dépend aussi du type de personne que tu recrutes. Si c'est du C-level, du head, du VP, tu vas être derrière, tu vas faire le recrutement. Mais sinon, généralement, tu vas laisser tes managers le faire parce que tu as confiance en eux, tu les as recrutés, et tu vas te dire, bah, si tu les as recrutés, ils sont capables de recruter. Par contre, ce que tu as besoin, c'est que ta personne sur la partie RH puisse remettre ces valeurs-là et réussir à faire le tri et se dire, même si cette personne-là est compétente, si elle correspond pas aux valeurs de la société ou à la culture de la boîte, en fait, je fais blocus et je passe pas cette personne-là, je fais le filtre. Et ça, il faut que tu puisses réussir à le faire sur ton call de 20 à 30 minutes en posant les bonnes questions. Donc, tu as tout un process aussi de questions à mettre en place. Et il faut poser les mêmes questions aux candidats pour pas en privilégier un par rapport à un autre. Donc, ça, c'est aussi super important d'avoir la même structure. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, avoir un système de formation de ton équipe RH, les faire monter en puissance et être sûr qu'ils puissent avoir la bonne connaissance pour réussir à scale ta boîte. Pour moi, la partie humaine, c'est la partie la plus importante d'une boîte. Une stratégie, ça se copie. Une levée de fonds, tout le monde peut la faire. Un produit, tu le copies. Un pricing, tu le copies. Tout se copie en fait. La seule chose que tu peux pas copier, c'est l'humain. C'est-à-dire que t'as pas un copycat aujourd'hui de l'humain. Et donc pour moi, c'est la chose qui te fait gagner une entreprise. C'est la chose la plus importante. Et donc, il faut que ta personne dans les RH puisse comprendre ça et de se dire, ben nous, on va recruter les top talents et qu'elle réussisse à te vendre pour avoir les meilleures personnes dans ta boîte versus potentiellement la concurrence.
Qu'est-ce que t'as mis en place ? Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais chez Ivancy justement pour t'assurer que la personne qui gérait le recrutement comprenait bien ses valeurs, comprenait bien ce qu'était un bon fit, un mauvais fit. Comment est-ce que tu lui donnais un peu les clés de tout ça?
Alors, premièrement, ça va être son premier mois où elle va passer dans la boîte. Donc, il faut passer du temps avec, il faut répondre à ses interrogations, il faut infuser justement ça. Ensuite, ça va être ta communication, ton cofondateur ou CEO. Donc, c'est-à-dire dans les mails que tu vas envoyer à l'intégralité de la boîte, elle va être dedans, dans les Slack que tu vas partager, le ton de voix que tu vas utiliser, donc elle va s'en imprégner également. Ça va être dans les échanges au quotidien. En fait, c'est plus le ton que tu vas lui accorder et les réponses aux questions que tu vas pouvoir lui amener. Donc là, c'est plus du temps qu'autre chose. Ce que tu peux mettre en place, par contre, qui peut être hyper utile, c'est des vis-ma-vie ou du shadowing. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu dis à ta personne, tu vas passer une journée par pôle pour bien comprendre en fait le métier de chacune des personnes. Ça, je l'avais pas fait chez Ivancy, mais c'est quelque chose que je vais faire chez Zelic. Au moins, quand tu fais des vies ma vie, bah, tu comprends leurs problématiques au quotidien, et ça va être beaucoup plus facile de recruter les prochaines personnes. Et aussi, quand ces personnes-là auront des problématiques métiers ou humains dans la boîte et quand ces personnes voudront parler à ton équipe RH, et ben en fait, ils pourront se sentir beaucoup plus libres parce qu'ils l'ont déjà beaucoup plus vu, ils ont travaillé avec, et la personne comprendra beaucoup plus les problématiques. Voilà, le shadowing, le vie ma vie, je trouve ça génial comme approche.
Intéressant, ouais, j'ai déjà entendu cette approche, mais dans un autre podcast, dans SaaS Club, avec des founders là, qui faisaient ça de manière assez systématique, chaque mois, où tu vois les devs passer au support, les commerciales passer chez le success, etc. Et ça crée justement, comme tu as dit, une empathie vis-à-vis des problématiques de chacun, tu vois, au quotidien.
Exactement.
Est-ce que tu as un dernier conseil sur le sujet à nous partager ou est-ce qu'on a tout dit ?
Dernier conseil, c'est faire une scorecard. Mmh. La scorecard, c'est on va noter 7 à 10 points importants pour nous. Par exemple, le niveau de langue en anglais, le niveau de management, niveau opérationnel de la personne. On va mettre une note de 1 à 4. On peut mettre obligatoire ou non. Donc, c'est-à-dire que si la personne n'a pas un 4 sur 4 et c'était obligatoire, ben, on peut pas passer la personne au niveau suivant dans le processus de recrutement. Et ça te permet, en fait, d'être en accord avec l'intégralité de tes managers et ton équipe RH pour être sûr de recruter la personne qui correspond aux vraies problématiques de tout le monde. Et donc ça, c'est le dernier conseil que je peux donner qui aide aussi au process de recrutement.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Dorian, pour ce dernier conseil, pour tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao, ciao.
Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify. C'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. À une prochaine pour un nouvel épisode.